De la philosophie grecque à la personne humaine. Huitième cours, la relation. Tout homme, toute femme, donc toute personne, est en relation avec d'autres. Déjà, au point de départ de notre vie, nous sommes issus biologiquement de deux autres. Nous sommes tous, par nature, en relation avec d'autres. N'est-ce pas essentiel dans la vie de chacun, vie privée comme vie publique, pour prendre le titre d'une émission de télévision, que ce soit dans le travail, dans l'amitié, la famille et dans la vie sociale ou politique? La relation n'est-elle pas ce qui conditionne notre existence et souvent aussi ce qui la détermine? Chacun a son carnet d'adresse ou sa carte de visite qui l'identifie. L'autre nous permet à la fois d'être nous-mêmes et de sortir de nous-mêmes, donc d'être tout simplement. À l'inverse, parfois à nos dépens, l'autre peut nous enfermer sur nous-mêmes et nous empêcher d'être nous-mêmes. D'ailleurs, il est étonnant de constater que nous sommes à la fois autonomes, autonomes en premier lieu dans notre être, et relatifs aux autres, tant au plan personnel que dans notre environnement de vie. La philosophie s'est penchée dans son histoire sur cette question essentielle depuis ses origines occidentales en Grèce. La relation a marqué tous les courants de la philosophie, de la pensée, en particulier avec Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, Descartes, Kant, Hegel et Husserl. Il est évident de constater que cette question de la relation avec la relativité s'est imposée dans le rapport entre philosophie et science, les sciences modernes en particulier. Topic historique. De la substance, premier principe philosophique, source d'autonomie de nous-mêmes, de notre être, que nous avons abordé dans le chapitre précédent, à la relation, nous assistons à une perte progressive de la substance, de l'ousia en grec, chair à Platon et Aristote, pour la relation elle-même, depuis Descartes jusqu'à Hegel, puis à la pensée actuelle. La relation nous fait donc comprendre la pensée contemporaine. De même, l'histoire de la relation, dans la philosophie, peut être une clé pour comprendre l'évolution de la pensée actuelle, fondée pour une grande part sur ce pouvoir de la relation sur la substance, source d'autonomie de l'être. Au premier abord, nous pouvons en déduire que s'il y a perte d'autonomie de l'être, cela aura pour conséquence une dépendance ou à l'inverse, une indépendance au niveau de la vie. N'est-ce pas ce que l'on observe? Soit les gens sont indépendants, jusqu'à devenir individualiste, d'où le relativisme, le rejet de toute forme de transcendance, soit dépendant jusqu'à être mené comme des moutons de Panurge, manipulé aussi, d'où les sectes ou toute forme de dépendance éthique ou politique. Il va de soi qu'une telle situation semble se comprendre si elle part d'un rapport de domination, de force, ou préalablement d'une pensée dialectique. En effet, la découverte de la substance fait appel à une pénétration de l'intelligence qui induit pour connaître, tandis que la relation ne se découvre pas. Elle tisse sa toile, dirait-on. De plus, la relation peut s'enraciner dans la réalité comme dans l'imagination, dans le réel comme dans le virtuel. Il existe deux types de relations. La relation réelle et la relation de raison. De même que l'être réel est dans la réalité, il peut être de raison, c'est-à-dire conçu ou fabriqué par l'intelligence. La réalité implique que l'intelligence, pour rester vraie, se soumette au réel, sachant qu'il lui est possible de s'abstraire de la réalité ou d'abstraire la réalité pour l'analyser et la comprendre. En effet, quand l'intelligence analyse, elle crée des outils pour l'aider, donc des êtres qui n'existent que dans l'intelligence pour ce travail d'analyse. C'est ce que l'on appelle l'être de raison, qui est un être existant, non pas dans la réalité, mais seulement dans l'intelligence ou dans la pensée. D'où la relation entre la pensée et la réalité, et l'homme est créateur de relations. L'intelligence peut transformer une matière existante, tandis qu'elle ne peut pas créer la matière au sens réel, au sens fort du mot. Elle ne peut que fabriquer des ersatz qui sont des produits de substitution. N'est-ce pas le rêve de toute la philosophie idéaliste d'être créatrice de relations jusqu'à l'homme d'être créateur de lui-même? Commençons par Platon, dont la philosophie est une philosophie de l'ousia. La substance, la philosophie de l'âme qui rejoint Hestia, la déesse qui demeure. Pour Platon, la relation tient une place prépondérante avec la dialectique qui implique toujours une certaine opposition, un nœud qui est l'âme du mouvement de l'intelligence. La guerre est le père de toute chose, affirmait Héraclite. Et s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de vie. Dans la vie, quelque chose se tient par soi ou se tient par un autre. D'où la substance et le relatif. L'opposition, c'est le relatif, car il ne peut pas y avoir d'opposition au plan de la substance qui est au-delà du devenir, du mouvement. Il ne peut pas y avoir d'opposition au niveau du principe, car il est premier, et étant premier, il est au-delà de toute opposition. Avec la dialectique, le mouvement de l'intelligence va de l'affirmation à la négation, de l'être au non-être, impliquant des relations. La relation s'impose et domine car elle est action et vie. Pour Platon, action et contemplation des formes sont en dualité par la dialectique. Dans le Parménide, il étudie les relations des formes entre elles et dit « Toutes celles parmi les formes qui ne sont ce qu'elles sont qu'en leur relation mutuelle, c'est dans ces relations qu'elles ont leur ousia. » La relation est donc substance pour Platon. L'ousia devient alors un moment dans la relation, un moment dialectique. D'où l'âme, de sa philosophie et la relation. L'au-delà de la relation étant la contemplation des formes en soi. Aristote, son disciple, conteste la pensée du maître sur la substance et la relation, sur les formes et les idées, entre action et contemplation. Si la pensée domine l'être par la relation, la relation prend la forme d'un être de raison qui se substitue à l'être réel. Quel est donc le premier être de raison que tout homme peut créer? C'est ce mouvement de l'intelligence sur lui-même par la relation. Donc, c'est la relation elle-même. Dans la trilogie hégélienne, thèse, antithèse, synthèse, qui est l'identité, la différence et l'identité de la différence. La relation devient le moteur du mouvement vital de l'intelligence. C'est la pensée se donnant à elle-même sa détermination par un saut dialectique en vue d'atteindre un absolu dans la pensée elle-même. Cela permet à Hegel de devenir le philosophe, maître de la relation, qui est la vie même de l'intelligence, l'esprit ayant absorbé l'être. Pour Merleau-Ponty, XXe siècle, l'être est un tissu de relations. Face à l'idéalisme, l'intelligence réaliste veut respecter l'être, puisque l'être précède la pensée, tout en comprenant qu'elle peut créer un être de raison, qu'elle peut fabriquer des relations de raison. L'objectivité prime alors sur la subjectivité, car la relation n'existe pas en réalité, mais seulement dans l'intelligence, d'où la confusion entre l'intentionnalité et la réalité, entre ce que je pense et ce qui est. La relation transcendantale chez Kant, puis la pensée mathématique vont accentuer ce règne de la relation. La connaissance donnant forme à l'être, la forme triomphant dans et par la relation prend tout. L'être mathématique, en tant qu'être dominant l'être réel, il n'existe plus que la relation. Hamelin, philosophe français du XIXe siècle, disciple de Hegel, n'hésite pas à dire qu'il n'y a d'intelligence que la relation. Structure de la relation. Le mot « relation » vient de l'adjectif « relatif », le « legetei » dans la philosophie grecque. Est étudié par Aristote qui écrit dans les catégories « On appelle relatif les êtres tels qu'eux-mêmes, dans ce qu'ils sont dits en dépendance d'un autre, ou de quelque façon que ce soit, se rapportent à un autre, sont orientés vers un autre. » Le relatif exprime la référence à un autre, contrairement à la substance qui n'a aucune référence à un autre qu'à elle-même, donc qui se suffit à elle-même. Le langage montre ce qui est relatif, puisque le langage est une suite de termes relatifs les uns aux autres, le verbe étant relatif au nom et inversement. Ainsi, dans les catégories ou prédicaments, cartes d'identité philosophique de l'homme, que nous avons abordé au chapitre précédent sur la substance, sur 10 catégories, 9 peuvent être attribuées. Par exemple, Pierre est intelligent et de grande taille. De grande taille, qui est de l'ordre de la quantité, et intelligent, de l'ordre de la qualité, sont attribués à Pierre. Donc, relatif à Pierre, substance première. Qui dit attribué, dit relatif. La substance reçoit les attributions. La relation, la qualité, la quantité, le lieu, le temps, le situs, l'habitus, l'action, la passion. Le propre du relatif est d'être relatif à un autre, d'où le risque d'être absorbé. Une fois compris la catégorie ou prédicament relatif, on entre dans la pensée contemporaine. Seule la substance résiste au relatif, puisqu'elle est par nature tournée vers elle-même, en latin « in », dans, en soi, donc elle-même, tandis que le relatif est par nature « ad », en latin « vers », c'est-à-dire tourné vers un autre, donc vers la substance, ce qui se tient par soi. Les 9 catégories sont relatives à la substance qui est le socle de l'être. Il y a donc 2 manières de regarder l'être. D'une part, en tant qu'il existe et en tant qu'il est relatif à un autre, d'après les catégories. D'autre part, en tant qu'il existe dans la réalité, en tant que réalité existante et en tant qu'il existe dans l'intelligence par la connaissance selon un mode universel, puisque toute connaissance est reçue selon le mode universel. Homme pour Pierre, par exemple. Chacun de nous conçoit son propre monde intentionnel. Les 2 regards sur l'être mettent en évidence 2 types de relations. La relation réelle et la relation de raison. La relation peut exister soit en réalité, soit dans la pensée uniquement. Donc, être une relation réelle ou une relation de raison. D'où la question qui peut avoir des conséquences importantes. Ce que je pense existe-t-il dans ma pensée ou bien ce que je pense existe-t-il dans la réalité? La plupart des gens vivent de relations et en restent au niveau de la relation. Pour eux, la vie est relation. Quand la relation disparaît, il n'y a plus rien. Leur vie n'est plus rien, d'où le néant et parfois l'angoisse. En effet, un monde de relations engendre un monde d'angoissés. De là, on ne peut donc être soi-même qu'avec un autre, que par rapport à un autre. Sans l'autre, donc sans relation, l'homme, la vie de l'homme, mais aussi son être, l'être de l'homme, n'existe pas ou plus. La relation devient vitale, source de vie et une fin en soi. Quand la relation est source, l'homme devient créateur par la relation. Ainsi, la dualité entre la relation de raison qui demeure dans l'intelligence, dans l'intentionnalité, et la relation réelle engendre une confusion entre création et créativité. la création ayant son fondement dans la réalité et la créativité ayant son fondement dans l'intelligence. La création part de rien, ex nihilo, tandis que la créativité part d'une matière existante que l'artiste transforme. Le mythe de Prométhée revient ici à l'esprit, l'homme volant le feu aux dieux. L'homme a la nostalgie d'être créateur et non seulement créatif. Comme Hegel, puis Nietzsche, il se veut théologien et non seulement philosophe, pour prendre la place de Dieu. Nous voyons que l'étude de la relation est complexe. L'étude de la relation montre qu'elle implique un fondement, quelque chose sur lequel elle s'appuie et rend relatif à un autre. Quand cet autre n'existe plus, la relation disparaît. En effet, elle n'existe que grâce à un autre et en fonction d'un autre. Pour prendre l'analogie du pont sur une route, la relation est un pont relié par deux piliers qu'on nomme corrélatifs. Les corrélatifs sont deux sujets en relation entre eux par un pont, une mise en commun, fondement de la relation, fondement de la relation des sujets entre eux. D'où toute relation comprend les termes corrélatifs. Pierre et Paul, par exemple. Et une mise en commun. Leur amitié, par exemple. Fondement de leur relation, c'est la structure de la relation. En ce moment, la relation qui existe entre nous est fondée par un enseignement philosophique dans une perspective réaliste, une recherche de vérité, puisque la vérité est la relation entre ce qui est, la réalité et la pensée. Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, dit qu'on peut avoir de l'affection pour les amis et la vérité, mais la moralité consiste à donner la préférence à la vérité. Thomas d'Aquin confirme à sa suite « Tous ceux qui cherchent la vérité sont mes amis. » On peut en déduire que la recherche de la vérité est suffisante pour faire naître des amitiés sérieuses et durables. Après avoir désigné ces éléments constitutifs, il faut se demander ce qui donne sens à la relation. Est-ce le fondement ou est-ce les termes corrélatifs? En ce moment, dans notre relation, est-ce vous ou moi ou bien ce qui nous unit? Les termes corrélatifs appartiennent à l'exercice de la relation. À l'exercice seulement. Parce qu'ils n'existent que par ce qui les unit. Une activité commune. Cela montre l'exercice entre les deux termes et la finalité qui détermine cet exercice entre eux. Le fondement est-il ce qui donne sens à la relation? La relation implique donc l'exercice avec les deux termes corrélatifs et le fondement, ce qui les unit. Être relatif, c'est être tourné vers un autre. Ce qui constitue la relation, ce sont les deux termes tournés l'un vers l'autre et liés l'un à l'autre. C'est sa spécification, son caractère propre. Prenons quelques exemples. Je suis en présence d'une personne que je vois. Je ferme les yeux, puis elle disparaît sans que je ne m'en aperçoive. Je pense à elle, mais elle n'est plus là. L'un des termes corrélatifs ayant disparu, la relation n'existe plus. Il n'y a donc plus de relation réelle. Il est nécessaire qu'il y ait la présence réelle et non intentionnelle des deux termes corrélatifs pour que la relation réelle existe. Mais il existe une relation de raison puisque je pense à la personne. Si je pense toujours à elle, elle existe, mais seulement dans ma pensée. Au niveau de la quantité, Pierre et Paul pèsent tous les deux 80 kilos, fondement de leur relation qui est de peser le même poids. Si Pierre perd 10 kilos, la relation de similitude disparaît, donc la relation disparaît. Au niveau de la qualité, je regarde une rose rouge. Je suis donc relatif à cette rose en la regardant. Suis-je changé dans cette relation? Je ne rougis pas et la rose ne change pas non plus. Mais la rose peut flétrir si je l'abîme en la touchant. L'être n'est pas changé par le fait d'être connu d'un autre. Mais celui qui reçoit une connaissance est changé au plan intentionnel, c'est-à-dire dans l'ordre de la connaissance. Nous observons ainsi la différence entre ce qui modifie la réalité et ce qui modifie la pensée par la connaissance. D'où entre une relation réelle et une relation de raison. L'être de la réalité ne change pas. Mais en modifiant la pensée ou la connaissance, la relation permet à l'homme d'être créateur en créant une relation par la relation de raison. Cela rappelle la citation de Nietzsche : « Si Dieu est créateur, or je suis créateur, donc Dieu n'existe pas. » Il s'agit là d'une distinction capitale entre l'activité de l'imagination et la réalité. Si nous revenons aux deux dimensions du « in » « dans » et du « ad » « vers », la relation existe dans un sujet. Être dans un sujet, c'est le « in ». C'est l'inhérence de la relation dans un être substantiel. Thomas d'Aquin a distingué dans la relation le « in », l'inhérence dans le sujet, et le « ad », être hors du sujet, tourné vers un autre. Le « in » est le fond, le fondement. Le « ad » est ce qui spécifie la relation, qui fait que la relation existe parce qu'il faut être deux. Toute relation implique un fondement. Le « ad » réclame donc le « in ». Mais le « ad » nous sort de nous-mêmes pour aller vers un autre en devenant relatif à l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le « in » de la relation fait que la relation existe dans la réalité et qu'au-delà du « in », par le « ad », elle implique d'être tournée vers un autre. Cette distinction est intéressante et importante parce qu'elle donne un éclairage entre les deux principes qui structurent la philosophie réaliste, celui que nous avons étudié au chapitre précédent, la substance avec pour conséquence l'autonomie, et celui que nous verrons plus loin, l'être en acte, avec pour conséquence la finalité. Ces deux principes répondent aux deux questions clés de la philosophie, Qu'est-ce? En vue de quoi? L'inhérence dans la relation, l'inhérence du relatif, indique le caractère propre de la relation. Sans être neutre, le « ad » n'agit pas sur la qualité de la relation, car on peut être relatif aussi bien à un ami qu'à un ennemi. Par lui-même, « ad » n'implique donc aucune perfection. Tandis que « in », par l'inhérence, implique la perfection ou l'imperfection. Donc agit sur la qualité en plus ou en moins. Prenons l'exemple de la relation actuelle existante entre nous. Je vous parle et vous écoutez un enseignement philosophique. Quand vous écoutez et que je lis, nous sommes tous deux « in ». Dans la mesure où nous existons en premier lieu, avant de se rencontrer, avant d'être en contact l'un avec l'autre, donc avant d'être ad. Nous sommes chacun in avant d'être ad. Je crois que c'est du bon sens. Le bon sens qui est d'exister avant d'être en relation. L'inhérence dans la relation est d'exister préalablement à la relation. Le « in » met en évidence la substance et le « ad » la relation. Quand on observe l'histoire de la philosophie occidentale, il est nécessaire de faire le parallélisme entre la substance et la relation. Sinon, on passe à côté d'une analyse approfondie, c'est-à-dire en quittant le réel qui s'impose pour les idées, nos idées, en rejetant ou en refusant le réalisme. De l'ousia, de la substance à la relation, avec la modernité, ce qui est devient progressivement ce qui est dit. L'être dans le dire, dans le penser, en grec dans la philosophie grecque, le to en ine, étant absorbé par le legete. Le in disparaît devant le ad. La substance disparaît devant la relation. Puis, seule la relation existe et domine l'être. À la fin du Moyen Âge, la philosophie prend son autonomie sur la théologie et, prenant son autonomie, elle se laïcise en perdant son réalisme et par conséquent sa finalité. Elle repose alors sur l'idée avec Descartes, Kant, puis surtout Hegel. Comme le « ad » envers le « in », l'idée absorbe l'ousia, la substance. Cela conduit à l'être en soi avec Sartre. L'en soi devient un « pour soi », un « chacun pour soi » à la suite du « je suis » qui s'impose sur le « ceci est », sur l'être. Entre le « ceci est » et le « je suis », le « est » est absorbé par le « je ». La relation s'impose au détriment de la substance. C'est en disant et non en étant que l'on existe. La première des 10 catégories, la substance, disparaît face au pouvoir d'un accident, le relatif, donc face au pouvoir de la relation. Entre philosophie et théologie, il est normal que la relation domine au plan de la théologie, puisqu'elle est finalisée par Dieu, la réalité parfaite au-delà de tout devenir. Lettre première. Du fait du rapport existant entre philosophie et théologie, l'histoire de la philosophie occidentale est profondément marquée par le déclin de la substance au profit de la relation. L'idéalisme et le réalisme se rejoignent dans la relation, puisque la relation peut se situer aux deux niveaux, que sont la relation réelle et la relation de raison. Par la relation de raison, où prime la pensée avec l'idée, la philosophie glisse vers la logique, qui n'est plus un outil de raisonnement, mais devient la fin de tout raisonnement. Dans la dialectique hégélienne, on voit ainsi comment le relatif prend la place de la substance. De la thèse à l'antithèse, de l'affirmation à la négation dans la pensée, l'esclave prend la place du maître. Selon l'ordre génétique, qui est de l'ordre de la vie, c'est Hegel qui a raison. Et selon l'ordre de perfection, qui est de l'ordre de l'être, c'est Aristote qui a raison. Hegel a reconnu l'œuvre d'Aristote, affirmant que seul Aristote forme. Cela signifie donc que les autres ne forment pas. Pourquoi ? Parce que sa philosophie est ordonnée avec la rigueur d'une analyse approfondie. Pour toute science, l'univers physique est sujet à la relativité. Il fait donc appel à la relation. Toute loi physique, toute science physique est en attente d'une nouvelle loi, d'une science plus élaborée qui tient compte des progrès de la recherche scientifique. On ne peut jamais affirmer en science qu'on atteint l'absolu, puisqu'elle part de la matière. La recherche scientifique n'a pas de fin, car tout change, tout est relatif, disait Héraclite. C'est en ce sens que l'on peut affirmer que la science moderne reste dans la relativité, qu'elle est dépendante de la relation et que, tendant vers l'infini, il ne peut y avoir d'absolu, si ce n'est l'infini lui-même. Pour être elle-même et respecter sa spécificité naturelle, l'intelligence a besoin de l'expérience qui n'est pas l'expérimentation scientifique, mais l'expérience au sens fort, l'intelligence au contact direct de la réalité qui s'impose à elle par les sens, les sensibles propres, donnant ainsi une dimension qualitative à tout aspect quantitatif. Dans les grandes expériences humaines pratiques que sont le travail ou l'art, l'amitié et la politique, la relation existe. Pour être étudiée, elle doit être recherchée dans son rapport avec des réalités déterminées, puisque les réalités indéterminées conduiront toute analyse sur la relation à quelque chose d'indéterminé. Il en résulte que la seule expérience à retenir est l'expérience éthique dont la finalité se situe au-delà de la matière, de toute indétermination, donc du devenir et de tout relativisme, parce que l'ami, par son esprit, peut échapper à la matière. L'amitié en tant que relation réelle. Pourquoi, dans notre monde, qui est un monde de relations, l'amitié vraie est-elle si rare? L'intelligence est face à deux ordres de recherche. L'ordre génétique, qui est un ordre de découverte ou de croissance, un ordre lié au devenir, et l'ordre de perfection, qui est un ordre de nature, un ordre lié à l'être. L'ordre génétique va de l'imparfait vers le parfait, tandis que l'ordre de perfection éclaire l'imparfait par le parfait. L'exemple de l'œuf et de la poule est significatif. L'œuf est premier dans l'ordre génétique, tandis que la poule est première dans l'ordre de perfection. Dans l'ordre génétique, l'œuf, réalité imparfaite, fait comprendre la poule. Dans l'ordre de perfection, la poule, réalité parfaite, fait comprendre l'œuf. La relation d'amitié peut-elle être considérée comme une référence ou l'excellence dans le domaine de la relation? Nous pouvons, nous devons même nous poser cette question et y répondre. Sinon, cela signifierait qu'on ne sait plus ce qu'est la relation, ne sachant plus ce qu'est l'amitié. Après avoir abordé l'amitié en tant qu'expérience humaine, nous l'abordons maintenant du point de vue de la relation. Aujourd'hui, on parvient si difficilement à comprendre puis à vivre cette relation si typique qu'est l'amitié. Elle est la relation la plus subjective par l'affectivité et la plus objective par son objet, l'ami. L'ami me fait sortir de moi-même tout en m'engageant à être plus moi-même. L'amitié mène à la découverte par excellence de l'autre qui me rend relatif à lui et qui, simultanément, me permet d'être plus moi-même, non dans un moi psychologique, mais au niveau existentiel et profond. N'est-ce pas étonnant d'être à la fois relatif, c'est-à-dire dépendant d'un autre, tout en étant plus soi-même, plus substantiellement présent à soi-même, donc plus substantiel? Si j'aime l'ami en tant qu'il est relatif à moi, cela conduit à une impasse. Des quantités de gens ne découvrent jamais l'amitié à cause de cela. Dans ce cas, l'amitié possède et ne rend pas libre. L'exercice de l'amitié exige de distinguer intelligence et raison. Faire la distinction entre l'intelligence et la raison, que Descartes a réduite à l'entendement, permet de saisir ce qu'est l'amitié, car l'amitié exige une intelligence réceptive, c'est-à-dire ouverte à l'autre, à la réalité autre que soi, donc à la transcendance. L'ami reçoit son ami. Cette réception éthique, par excellence, se donne en premier dans un choix réciproque, ce qui rend les amis relatifs l'un à l'autre. Le moi individuel disparaît en l'autre, qui devient le bien qui engendre l'épanouissement de la personne, réceptacle de l'amour de l'autre. L'amour nous met dans une attitude de dépendance à l'égard de l'ami. Cette dépendance, loin de nous diminuer, nous finalise, parce que l'ami reçoit la personne de son ami en l'aimant pour lui-même. Il est intéressant et nécessaire de prendre conscience de cela, après avoir observé que certaines dépendances diminuent la personne, tandis que d'autres la grandissent, l'ennoblissent, surtout dans l'amitié, mais quand l'amitié est vraie, donc spirituelle. Dans ce cas, on peut à la fois être dépendant et être finalisé, et par conséquent autonome. Il n'y a pas de dualité, mais une ouverture, une profondeur qui met en évidence la noblesse de l'amitié et sa dimension de perfection dans l'ordre des finalités humaines. Dans l'amitié, le relatif implique la perfection, ce qui n'est pas le cas dans les autres relations. Car le relatif comme tel ne qualifie pas. Il exprime la capacité de notre être à se tourner vers, à être dépendant d'un autre. Tandis que la substance fait vivre dans l'autonomie, qui est le propre du vivant, le relatif fait dépasser cette autonomie pour être tourné vers un autre. C'est là où l'on voit que la relation joue un rôle capital et déterminant dans la vie humaine. Le moi existentiel, c'est la substance qui manifeste l'autonomie, étudiée au cours précédent sur la substance. Ce moi substantiel est à la fois assumé en soi et tourné vers l'autre, le yin et le had. La saisie de la substance est fondamentale pour comprendre l'enracinement de l'être et la compréhension du relatif par son enracinement dans les deux termes corrélatifs, et dans le cas présent, chacun des deux amis. L'amitié est une relation d'amour qui atteint le bien personnel et qui, pour se réaliser, a besoin de la réciprocité. Ce n'est pas l'amour de l'autre qui spécifie mon amour, mais c'est l'autre en tant qu'autre et en tant que bien personnel. Il faut distinguer l'exercice, qui est l'amour lui-même en acte, et le fondement, ce qui fonde cet amour, pour comprendre ce qu'est la relation d'amitié. L'expérience de l'amitié fonde l'éthique, une véritable éthique humaine. De l'éthique à la science de l'être ou la métaphysique, l'analyse permet de comprendre ce qu'est le relatif et ce qu'est la relation. L'universel en tant que relation de raison. Quand on dit de quelque chose qu'il est universel, qu'est-ce que cela signifie ? Pierre est un homme. Homme est le mode universel de Pierre. Le chien est un animal. Animal est la signification ou l'universel générique qui est attribué au genre animal. La signification peut être attribuée à des quantités, l'un vers le multiple. C'est en expérimentant le chien ou le chat que j'ai le concept animal. Et passant de l'abstrait au concret, en me faisant mordre ou griffer. Il y a donc quelque chose de commun entre le chien et le chat, ce qui permet de dire que, par l'universel, l'un est dans le multiple. Animal est la multitude de chiens ou de chats. L'un vient du multiple. Animal vient de tous les animaux. Et qu'il est vers le multiple. Animal ouvre à tous les animaux. Donc in, dans, ex, de, l'origine, et ad, vers. La relation entre l'un et le multiple est une relation de raison. L'un existant dans la réalité, par l'être, l'exister de telle réalité, le multiple n'existant pas dans la réalité, mais seulement dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui quantifie par le nombre. Dans la réalité, tel homme, Pierre par exemple, ou tel chien existe, tandis que homme ou animal n'existe pas. D'où cette relation n'est pas une relation réelle, mais une relation de raison. Qui dit relation de raison, dit relation abstraite. L'animal n'existe pas. Il n'existe qu'en tant que tel animal. Comme la blancheur n'existe pas, mais le blanc de tel mur existe. La forme n'existe pas, mais telle forme dans telle réalité existe. C'est la réaction d'Aristote aux formes idéales de Platon. N'existant pas dans la réalité, l'universel n'existe pas par lui-même et n'existe que dans un autre, l'intelligence humaine. À partir d'une multiplicité d'expériences, on saisit ce qu'il y a de commun entre elles en leur donnant une signification. Animal pour les chiens. Ce qu'il y a de commun est saisi dans l'abstraction qui, pour l'animal, est ce qu'on appelle la signification générique. L'universel est donc uniquement une relation, contrairement à l'amitié, puisqu'il n'a pas d'enracinement dans la réalité. L'ami de tout le monde n'est ami de personne, dit Bourdaloue. Ou bien, ce n'est pas un ami que l'ami de tout le monde, dit Aristote. Célèbre citation reprise par Molière dans Le Misanthrope. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. L'universel et l'amitié caractérisent les deux extrêmes de la relation. L'amitié en tant que perfection de la relation réelle, l'universel en tant que relation de raison. L'intelligence fabrique sans cesse des relations qui n'existent que dans l'intelligence, par la soif de créativité et d'imagination qui favorise le libre arbitre de l'esprit humain. La véritable amitié est bien la relation la plus parfaite, tandis que la relation de raison par l'universel est celle qui peut être la plus imparfaite, car sans réalisme. L'amitié et l'universel sont deux types de relations auxquelles il faut ajouter un troisième type de relation. La solitude, qui peut être une relation, puisqu'il s'agit d'un dédoublement de soi-même pour être relatif à soi. Notre propre identité est une relation. On se regarde dans son miroir intérieur, d'où la relation avec soi-même. Du relatif à la relation substantielle. L'homme vit sans cesse au niveau de la relation. Peut-il en sortir, du moins ne pas y rester enfermé? On ne peut sortir du relatif que par quelque chose de substantiel. Dans le travail, est-il possible de dépasser la relation? Regardez l'œuvre qui finalise le travail, c'est dépasser la relation. Regardez la personne de l'ami, sa dimension existentielle, c'est dépasser la relation avec ses hauts et ses bas. Quand il s'agit de la vérité, le dépassement du relatif s'opère par la relation substantielle, donc avec ce qui est. Par contre, la sincérité demeure dans le relatif, car on est sincère avec soi-même, avec ce que l'on pense. Il est donc nécessaire de comprendre ce qu'est la relation pour pouvoir la dépasser, ne pas y rester enfermé et demeurer dans la relativité comme la matière. Nombreux sont ceux qui, ne faisant pas la différence entre le relatif et le substantiel, ne vivent qu'au niveau de la relation. Ils n'ont aucune indépendance d'esprit et vivent d'opinion. Ils n'ont donc pas de véritable autonomie personnelle. On se sert de la relation dans le conditionnement de la vie, mais on la dépasse en vue de la fin, qui est le bien qui attire et donne sens à la vie. En tant que réalité substantielle, les amis forment une relation substantielle. Elle est même la relation substantielle par excellence. Quand on observe l'évolution de la pensée, la philosophie est devenue progressivement une philosophie de la relation. La substance, source d'autonomie, maintient le réalisme, tandis que son dépassement par le relatif conduit à l'idéalisme par la relation de raison. La relation est ainsi charnière entre l'idéalisme et le réalisme. Il est intéressant de constater que les mathématiques appartiennent au domaine de la relation. Née au début de la philosophie en Grèce, elle domine aujourd'hui la pensée. Dans les mathématiques, la relation est première. Il n'y a pas de substance, car il n'y a pas de principe, et tout est relatif. Pour Platon, les mathématiques sont médiatrices entre la physique et la dialectique. Pour Aristote, les mathématiques sont extrinsèques à la philosophie. Avec le développement des sciences modernes, les mathématiques assurent aujourd'hui un rôle de médiation déterminant. La pensée moderne est une pensée dialectique, et qu'elle soit philosophique ou même théologique, elle domine tout par la relation. Maintenir une philosophie réaliste exige le dépassement de la relation par la substance et par la finalité, les deux seuls principes de la philosophie de l'être. Pour terminer cette rapide approche de la relation, nous pouvons et nous devons aborder succinctement l'aspect de la négation et son pouvoir sur la pensée. La négation a-t-elle un fondement ? La négation est-elle réelle ou abstraite ? La négation appartient à la connaissance. Appartenant à la connaissance, elle fait appel à l'abstraction, donc à l'universel, donc à la créativité intellectuelle en dehors de la réalité. Il s'agit là d'une manière de connaître qui implique une relation de raison. La seule chose que l'intelligence peut créer, c'est l'être de raison. Et avec lui, la négation qui est un être de raison. De la négation à l'affirmation, qu'en est-il de la relation entre l'intelligence et toute réalité ? C'est la vérité. La vérité est l'adéquation de l'intelligence avec la réalité. Adéquatio intellectus ad rem. Elle est le bien de l'intelligence par excellence. N'est-elle pas la relation parfaite au niveau de la vie de l'esprit ? au même titre que la finalité, ne doit-elle pas être le moteur de toutes les autres relations dans la vie ?